Mes chers auditeurs, bon, on en a déjà parlé, non? Certains dans les médias mal pensants, mais très riches, se disent lassés de devoir toujours écouter les gonzesses se plaindre pour des broutilles, des peccadilles, des toutes petites mains baladeuses. Des mots pour rigoler avec les potes, notamment sur le physique des poufias féministes qui, incroyable mais pas vrai, quand même, donnent envie d'être pédés. Ouh là 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 là, votre mâcheur s'est laissé aller, mais bien entendu, vous l'avez compris, ce ne sont pas ces mots, mais ceux des autres. Mes chers auditeurs, j'utilise volontairement ce langage car il faut le dire, il est toujours d'actualité dans certaines rédactions, sur certains tournages de films et bien sûr dans la rue. Enfin, plutôt au café du coin où on ne risque pas une prune pour sexisme. On n'est pas très courageux quand même. Bon, laissons d'autres, plus compétents, voire même compétentes, en parler. Eh oui, on ne peut même plus parler normal avec cette féminisation inclusive de tout, de notre langage, comme on l'affirme sur CNews, sans contradiction d'ailleurs, ce qui est beaucoup plus facile pour colporter des fausses informations et des horreurs, n'est-ce pas? Bon, ça y est, je me suis défoulé. Marine Longuet est assistante de réalisation et formée pour être référente harcèlement. Elle est aussi membre élue du conseil d'administration d'un collectif qui s'appelle 50-50. Cette association, créée en 2020, lutte contre les inégalités, les discriminations et les violences sexistes et sexuelles dans les médias et dans le cinéma, surtout. Hugo Boursier, le 27 novembre 2024, pour Politis, réalise une interview de cette Marine Longuet avec pour titre Écouter les victimes, c'est une responsabilité humaine immense. Alors, quelques extraits de cette interview qui ne sera pas publiée sur la plupart des médias qui décident pour vous ce que vous êtes et ce que vous devez penser, vous devez faire ceci ou cela. Alors, j'ai envie de changer de métier après chaque film, dit l'une d'entre elles. C'est à l'image de la société, bien qu'essentielle, les métiers dits féminins sont déconsidérés. On parle de cinéma. La participation de ces femmes à la formation illustre une forme de lutte des classes au sein du cinéma. Un combat porté par des personnes occupant les fonctions les moins reconnues, avec l'objectif de faire cesser la reproduction des violences. Eh oui, il y en a des petites mains là, hein, dans le cinéma, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans le milieu du cinéma, les questions de violence sont dans toutes les têtes, me semble-t-il. Que peut changer cette formation qui devient obligatoire? Elle peut participer à changer les habitudes de travail. Une partie de cette formation, réalisée par un ou une intervenante formée, se déroulera au moment de la préparation d'un film. Aujourd'hui, dans le milieu du cinéma, les questions de violence sont dans toutes les têtes, certes, mais une fois arrivées sur le plateau, en parler demeure très difficile. Les comédiens, les comédiennes pourront-ils bénéficier de cette formation? Oui, probablement, parce que la première partie se fait à distance pour toute l'équipe qui va réaliser le film. Oui, parce que, donc, vous avez compris, on pourra en parler. Pour la seconde partie, en présentiel, d'accord? Rien n'est moins sûr. Ça sera beaucoup plus compliqué. S'ils ne le souhaitaient pas, je ne vois pas comment ils pourraient y être contraints, tous ces gens. À l'heure actuelle, ce second volet devra être suivi au minimum par des personnes assurant les postes principaux, c'est-à-dire directeur de production, réalisateur, directeur de la photographie, chef décorateur, créateur des costumes, etc. Or, les formations auront lieu lors des périodes de préparation et non pendant les tournages. Les comédiens, les comédiennes ne seront donc pas forcément là. Pourtant, nous avons besoin d'être ensemble dans une même pièce pour entendre ce qu'est la réalité du droit du travail en termes de lutte contre la violence sexiste et sexuelle. Aujourd'hui, les personnes référentes harcèlement peuvent être liées à la production. Certains et certaines militent pour que cette fonction soit assurée par quelqu'un qui est indépendant du film. Alors évidemment, ça vaut mieux qu'elle soit indépendante du film. Ça s'appelle un conflit d'intérêts en quelque sorte. Ces référents existent depuis 2021. On a fait un grand pas, dit donc la personne qu'on interviewe, on a fait un grand pas dans la lutte contre les violences sexuelles et en très peu de temps, faut-il le reconnaître. La mise en place de ces référents en fait partie. Mais bien entendu, c'est loin d'être suffisant. Les productions ont-elles une part de responsabilité lorsqu'elles engagent des comédiens et des comédiennes qui sont entourés d'éléments faisant état de violences concrètes ou sous la forme de rumeurs? Eh oui, est-ce qu'on peut dire, voilà, vous êtes embauché, mais vous allez tourner avec machin, avec trucs qui sont quand même reconnus pour avoir quelques petits problèmes de violence sexiste? Oui, mais il faut aussi démêler ce qu'on appelle une rumeur. Celle-ci peut désigner des faits très graves, bien sûr, et très précis, qui ne sont pas toujours publics, mais elle peut aussi reposer sur des comportements encore acceptés collectivement. Des propos, vous savez, un peu comme je disais au début de cette chronique, des gestes, des regards insistants, qui n'ont pas leur place dans un milieu professionnel, évidemment. Les producteurs doivent être honnêtes quand ils entendent ce que l'on sait depuis tant d'années sur une personne. Ils ne peuvent pas se mentir à eux-mêmes. Quand ils viennent sur les plateaux, ces producteurs, ils pourraient constater, discuter, témoigner. Mais la plupart ne font que s'asseoir derrière le retour caméra, dire bonjour et filer à la cantine pour manger avec les comédiens et peut-être surtout les comédiennes. Bon, ceux qui veulent savoir n'ont qu'à poser des questions. On ne recueille pas la parole d'une personne qui a subi des violences à la machine à café, devant tout le monde. C'est ce que dit donc notre interviewé. Certains producteurs se saisissent avec intelligence des outils et protocoles mis à leur disposition. Et ceux qui ne sont pas convaincus par la nécessité d'un changement de pratique, qu'ils s'intéressent au vécu, disons par exemple, de leur femme, de leur fille, de leur mère, de leur tante, de leur fils et de leur frère, sur la manière dont les violences sont systémiques et comment elles peuvent être enrayées dans le cinéma, comme n'importe où dans notre société. Ah, et ben ah bon, c'est bien ça. Gérard, et les autres, pourquoi vous toussez ?